RCF.
Catherine Relais, nous poursuivons avec vous l'évocation de l'histoire de l'enfant à travers les siècles. Le Moyen-Âge est marqué par l'avènement de la chrétienté. Le christianisme est dans toutes les sphères de la société. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de l'enfant n'échappe pas à cette règle et qu'il est également marqué par le christianisme?
Oui, certainement. Là, on entre dans une nouvelle configuration sociale, politique, religieuse, marquée effectivement par la christianisation, qui a été progressive d'ailleurs, de l'Europe dans toutes ses dimensions. Et donc, ce processus n'élimine pas néanmoins une autre donnée absolument forte, à savoir que l'enfant s'inscrit dans un lignage, dans une lignée, et dans une communauté. Et donc, l'enfant qui vient, c'est un maillon véritablement dans la chaîne des générations.
C'est-à-dire que c'est l'espoir de voir la lignée continuer.
Voilà.
C'est l'héritier.
Ça devient l'héritier parce que justement, les lignages se solidifient, se fortifient. Et par exemple, les familles vont porter un nom. C'est quelque chose de nouveau dans le Moyen-Âge occidental. Donc il y a d'une part cette stratégie de lignage et d'autre part l'arrivée du christianisme. Ces deux fondements, en quelque sorte, ont pu parfois un peu s'entrechoquer. Alors c'est sûr que le christianisme a marqué son empreinte l'enfant parce que on vit au Moyen-Âge et longtemps encore sur une vision un peu pessimiste de l'enfant. Parce que la pensée de Augustin, l'évêque d'Hippone, a été très marquante. Augustin soulignait le fait que l'enfant, dans le fond, venait du péché même de ses parents. Par conséquent, il était pécheur lui-même.
Marqué par le péché dès la naissance.
Dès la naissance. C'est pas du tout l'être innocent qui est manifeste à cette époque-là. Donc, pour justement contrecarrer en quelque sorte cette vision pessimiste, eh bien, l'Église a rendu le baptême de plus en plus précoce. C'était une demande de l'Église, mais c'était aussi une demande des parents, puisque les parents voulaient que l'enfant ait le salut éternel, la vie éternelle en quelque sorte. Donc le baptême a été de plus en plus proche, alors qu'au premier temps du christianisme, il se faisait à l'âge adulte.
Plus le temps passe et plus le baptême intervient dans les heures qui suivent la naissance.
Exactement. Jusqu'au Concile de Trente. Au Concile de Trente, l'Église recommande de baptiser les enfants quam primum, c'est-à-dire dès que possible. Alors ce baptême est extrêmement important parce qu'il intègre l'enfant, non pas seulement dans la communauté humaine, mais dans la communauté des vivants et des morts. C'est vraiment le lien entre le ciel et la terre. Et l'Église met en place des témoins de ce baptême, les parrains et marraines. Les parrains et marraines deviennent des parents spirituels. Donc on voit bien là qu'on a deux parentés, la parenté spirituelle et la parenté humaine.
Un baptême très précoce, parce que la mortalité infantile oui. est très importante.
Oui.
Est-ce qu'on a une idée
pour ces époques-là,
des chiffres?
Oui, pour ces époques-là, que ce soit d'ailleurs pour l'Antiquité ou pour le Moyen-Âge, on estime qu'à peu près 30% des enfants mourait dans la première année, et peut-être que survivait à l'âge adulte un enfant sur deux, à peu près. Donc c'était une mortalité absolument terrible. Et les parents en avaient peur, et donc avaient le désir d'offrir à leur enfant une forme de salut. Et on a même vu se développer au cours du Moyen-Âge une pratique qui a duré jusqu'au XXe siècle pratiquement, qui est la pratique du sanctuaire à répit. Quand l'enfant naissait, et qu'il ne donnait pas vraiment de signe de vie, on se dépêchait de l'emmener dans un lieu de culte, une petite chapelle dédiée à un saint, dédiée à la Vierge. On le posait sur l'autel et on attendait que l'enfant manifeste un signe de vie. Dès qu'on croyait percevoir un signe de vie, on baptisait l'enfant. Et c'était une forme de pacification, d'accompagnement du deuil qui était évidemment très, très intéressante.
Laissez rêver l'enfant qui dort aux fumées bleues des châteaux forts. Laissez-lui démonter le ciel. Dehors c'est toujours pareil. C'est toujours pareil.
la suite de l'histoire.
En termes d'hygiène et de soins apportés aux nourrissons et puis aux enfants un peu plus tard, Catherine Rollet, est-ce que le Moyen-Âge apporte des pratiques très nouvelles par rapport à l'Antiquité ?
Peut-être que du point de vue médical, les connaissances au Moyen-Âge n'ont pas été tellement plus avancées que sous l'Antiquité. Même si par certains médecins, par exemple arabes, on a eu des médicaments, des médications relativement nouveaux. C'est plus peut-être dans les pratiques d'habillement, etc. On ne lavait pas beaucoup les enfants au Moyen-Âge, mais pas plus à l'époque moderne. Le véritable bain, c'était le bain du baptême. Non, ce qu'il y a de nouveau, c'est l'emmaillotement, qui n'est plus, comme sous l'Antiquité, un emmaillotement avec des bandelettes serrées autour de chaque membre, chaque pied, chaque jambe, chaque bras était entouré de bandelettes, comme une momie.
Ça, c'est sous l'Antiquité et souvent même avec un morceau de bois, non, une planche qui maintenait
le membre. Oui, et l'idée, c'était que l'enfant ne redevienne pas un animal, ne reprenne pas la position fœtale in utero et donc se tienne droit.
Qui se déforme pas, quoi.
Qui se déforme
pas. Et ça on l'abandonne au Moyen-Âge ?
On n'abandonne pas tout au Moyen-Âge, mais on abandonne les bandelettes internes. Non, ayotte les bébés, assez serrés, des tissus, du coton, de la laine fine. Et c'est seulement à l'extérieur qu'on déroule des bandes pour serrer le maillot. On n'utilise pas des épingles à nourrice. La question que se sont posées les historiens c'est de savoir mais comment on pouvait changer l'enfant. Est-ce qu'on le changeait? Oui, sans doute, mais sans doute pas comme aujourd'hui. On le changeait peut-être une ou deux fois par jour. Alors,
en ce qui concerne la nourriture, l'allaitement, on continue évidemment, dans les familles nobles en tout cas, de confier le bébé à une nourrice.
Oui, dans les familles nobles, on a des nourrices à domicile, plusieurs d'ailleurs. Même Duby parle pratiquement de petites pouponnières à l'intérieur des châteaux, avec deux ou trois nourrices qui se relaient et qui s'occupent intégralement de l'enfant.
Une femme qui n'a pas d'enfant à cette époque-là, c'est
une
malédiction.
C'est impensable. Le mariage même. D'ailleurs, c'est le mot latin, matrimonium. Le matrimonium, c'est l'affaire de la mère. On a la même racine, mater. Oui. Donc, une femme qui n'a pas d'enfant, ça n'est pas vraiment tout à fait une femme. Et donc, les dévotions à des fontaines miraculeuses, etc., vont se développer. Et aussi à des saintes spécialisées, Sainte Agathe, par exemple, pour permettre aux femmes d'être enceintes.
Dans les familles de paysans, on met l'enfant au travail dès le plus jeune âge ?
Dès qu'on peut, dès que l'enfant est capable de rendre des services. C'est plutôt au niveau d'abord des services. Ce n'est pas tout à fait l'esclavage, hein, c'est le servage. Mais dans le courant du Moyen-Âge, les serfs sont affranchis. Et donc ce sont des familles de paysans, mais libres. Et donc cela change progressivement la structure profonde de la société. Alors ce que je voulais souligner aussi pour le Moyen-Âge, c'est que on a des faits contradictoires. À la fois, l'abandon existe encore, comme pendant l'Antiquité, et on a l'impression que l'enfant ne compte pas énormément. Et en même temps, par exemple, chez les poètes, on a des jolis petits poèmes sur les enfants qui grandissent, les enfants qui sont heureux avec leurs parents. On a un livre d'historienne qui s'appelle « L'enfant à l'ombre des cathédrales » qui est tout à fait merveilleux comme compréhension de l'environnement qui entoure les petits-enfants et les enfants qui grandissent au Moyen-Âge.
Enfant, pourquoi pleurer puisque sur ton passage on écarte toujours les ronces du chemin. Une larme fait mal sur un jeune visage. Cueille et tresse les fleurs qu'on jette sous ta main. Chante, petit enfant. Toute chose a son heure. Va de ton pied léger par le sentier fleuri. Tout paraît s'attrister sitôt que l'enfant pleure et tout paraît heureux lorsque l'enfant sourit. Comme un rayon joyeux, ton rire doit éclore et l'oiseau doit chanter sous l'ombre des berceaux. Car le bon Dieu là-haut écoute dès l'aurore le rire des enfants et le chant des oiseaux.
Sur un plan juridique, l'enfant a un statut particulier dans les grandes familles.
Alors progressivement, dans les grandes familles, le rôle dévolu à l'aîné, devient central, puisque c'est lui qui va être l'héritier, les autres étant quelque peu sacrifiés à cet aîné. Et aussi, une autre différenciation qui existait déjà sous l'Antiquité, c'est que le garçon a une place croissante. Les femmes étant comme les enfants des mineurs, mais les filles étant moins valorisées que les garçons. Et j'ai pu voir que, par exemple, bon, à la fin du Moyen-Âge, c'est même presque à l'orée de l'époque moderne, au XVe siècle, au centre de la France, dans le Limousin, les familles cherchaient à avoir deux garçons et une fille. Deux garçons pour assurer absolument la poursuite de la lignée, et une fille au moins pour développer le réseau social. Une fille à marier, c'est donc une famille alliée qui va renforcer le pouvoir de la famille. Alors je pense qu'à cette époque-là, l'accent est mis sur le spirituel, sur l'âme, avec cet encadrement de l'Église, des prêtres. Donc je pense là aussi qu'il y a une forme de société solide, en ordre, différents ordres sociaux, les chevaliers, les prêtres, les paysans, cimentés par l'Église, même s'il y a eu des dissidences, des protestations, etc. Et puis on verra après la réforme.
Mais c'est là aussi qu'on voit apparaître des représentations picturales de la Vierge,
oui,
et de l'enfant Jésus,
oui,
qui probablement marquent aussi beaucoup
oui,
ceux qui les regardent. Et puis
oui,
y a un message
absolument,
derrière ça.
Absolument, absolument. On peut dire que c'est le temps d'une enfance magnifiée par la représentation extrêmement fréquente de la Vierge à l'enfant. D'ailleurs, un enfant nu, le plus souvent. Cette représentation voulant illustrer le fait que le Christ est à la fois Dieu et homme. La maternité est vraiment donnée en modèle.
Merci beaucoup, Catherine Rollet.